17h25 minutes. Salut Pierre-Yves. Via Rail confirme le choix de Siemens finalement.
Bon, oui, ça, on perd. Oui, on perd en contrat, c'est confirmé. Mais d'un autre côté, le conseil d'administration de la compagnie publique New Jersey Transit approuve à Bombardier un projet. Donc, on en perd un, on en gagne un. Ça fait partie des appels d'offres. Et quand on parle du contrat perdu, on parle aussi des défectuosités ou des retards passés. Hein. Bombardier a eu beaucoup d'historique de perte de contrat. Donc, quand on arrive chez Via Rail, les critères étaient le rapport qualité-prix et la capacité de livrer. Et si on tourne dans le passé, ben il y a eu des poursuites ou des désagréments de Bombardier des clients au travers des années, que ce soit à Toronto ou ailleurs. Donc, évidemment, ça influence la décision. Et on regarde probablement la capacité de livrer au bon moment, puis le prix, puis la marge. Donc, effectivement, c'est ça un appel d'offres. Hein? Tu t'essayes et pendant ce temps-là, ben Bombardier, au niveau de l'action, on a remonté de 20 cents récemment et on se retrouve là avec une perte sur un an de 28% du titre. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la Caisse, oublions pas que la Caisse de dépôt et de placement du Québec a 30% de la division Bombardier Holdco, donc évidemment Bombardier Transport. Et ça fait en sorte que tout bon projet pour le ferroviaire vient payer la Caisse et ainsi les déposants de la Caisse. Et c'est nettement le secteur le plus payant de Bombardier. On se rend compte qu'au niveau de l'information sectorielle, si c'était pas du train, Bombardier serait pas mal fini, là. Donc, effectivement, au niveau de la marge opérationnelle, ou plutôt le résultat avant impôt, t'as 184 millions de dollars pour le trimestre sur le transport, sur un total de 267 pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est vraiment payant de ce côté-là.
Bon, maintenant, parle-nous de SNC-Lavalin, parce que le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, qui est pas allé par quatre chemins, il dit que ça pourrait être l'objet d'une prise de contrôle étrangère.
Oui, parce que le titre est tellement décoté récemment dans les derniers mois. Et depuis 2008-2009, le titre fait juste vivoter. On est toujours en bas du prix ou relativement en bas du prix qu'on avait à cette époque-là. Donc, depuis 10 ans, SNC-Lavalin, le titre est ordinaire, évidemment. Il y a eu des malversations, il y a eu des individus à l'intérieur de l'organisation, que ce soit en lien avec le CUSUM ou la Libye, qui ont mal agi. Et ça a vraiment nuit à l'entreprise qui était décotée depuis un an de 17 % et qui a, depuis le début de l'été, depuis le milieu de l'été, là, à 60 $ on est tombé à 45-46 $ Donc, on est vraiment là et on dit dans le fond, la Caisse prend 20 %. La Caisse, une mauvaise transaction. On dit, regardez ça, on a monté notre position jusqu'à près de 20 %, puis c'est logique. D'un côté, on protège les intérêts d'apparence politique, comme quoi on a pris une position assez importante pour protéger les intérêts du Québec. De l'autre côté, la Caisse veut pas une position dominante. Hein, la Caisse veut pas être actionnaire majoritaire. C'est un actionnaire plus passif, mais qui s'investit. Et d'un autre côté, s'il y avait une prise de contrôle étrangère ou une tentative de, la Caisse aurait non seulement son mot à dire, mais surtout profiterait de la plus-value, donc du gain ou de la prime pour convaincre les actionnaires de vendre. Donc, la Caisse s'est mise dans une position sympathique. Et si on se ramène à l'époque de Saint-Hubert, on a dit qu'on aurait dû protéger Saint-Hubert. Ben, la Caisse ne pouvait pas prendre une position majoritaire dans Saint-Hubert. Elle voulait prendre une position minoritaire. Donc, le propriétaire voulant en vendre à quelqu'un, ça coupait un peu les intérêts de la Caisse. Mais ce qui est intéressant avec SNC-Lavalin, c'est la capacité de vendre à l'étranger, d'exporter le savoir du Québec, de payer des gens 100 000, 150 000 par année et non pas le même rapport de force qu'on a avec des employés qui sont dans la restauration ou ailleurs, ou chez Rona, à vendre des 2x4. On crée des emplois de haute valeur et pour le futur, veut pas garder des sièges sociaux de cette valeur-là, ça a un impact pour le Québec.
N'est-ce pas? Là-dessus, tu voulais nous parler du CELI, l'arme redoutable de retraités. Comme je te disais tout à l'heure, je t'ai entendu l'autre jour faire tes calculs de CELI. Quelqu'un qui aurait investi tant, ça donnerait tant avec les bons, à l'abri de l'impôt.
Mais Marc-Claude, c'est plus fort que ça. C'est plus qu'une question de temps. C'est une question de cash net. Et parce que là, on a souvent sous-estimé, puis il y a beaucoup de retraités qui m'écrivent, qu'est-ce que je devrais faire? Et cette arme-là, comme elle date depuis 2009, hein, c'est dans notre portefeuille d'armes fiscales depuis 2009.
Déjà 2009, hein?
Ouais, des gens l'utilisent pas. Le plafond est rendu à 63 000. Ça veut dire que les cotisations cumulées, qui sont rendues à 6 000 maintenant par année, sont cumulées jusqu'à 63 000 pour l'instant, plus le gain que tu peux faire avec ça, puis les rendements. Mais une personne qui a ça dans son portefeuille et qui a vendu, par exemple, sa maison et qui a rempli son CELI à 63 000 et qui a fait des gains au travers des années, peut avoir, non pas seulement 63 000, mais 100 000, 150 000, 200 000 dans son CELI. Et là, tu arrives à la retraite, puis tu retires tranquillement tes REER. Tu sais, vraiment pas vite. tu retires un petit peu, tu payes presque pas d'impôts. Et pour compléter ton revenu, tu vides un peu ton REER, ton CELI, qui lui est libre d'impôts totalement. Donc, des gens qui ont fait des gains dans le CELI et qui ont capitalisé avec ça, se retrouvent à la retraite avec un revenu disponible par année beaucoup plus appréciable que les autres pour faire la même dépense. Je te donne un exemple. Tu veux t'acheter une voiture usagée à 5 000 $. Tu retires du REER, tu dis, tiens, je vais pas en retirer trop parce que si je retire du REER, qu'est-ce qui va arriver? Je vais payer plus d'impôts, je vais changer de braguette, je vais avoir moins de crédit pour solidarité, je vais avoir moins d'avantages liés à la retraite. Donc, je vais être perdant, ça va me coûter cher. Mais quand tu vides ton CELI, ça tient pas dans ton revenu.
C'est vrai.
C'est nulle part. Même chose avec la toiture de ta maison. Ta toiture coule, tu fais réparer avec ton CELI, ton revenu imposable augmente pas. Donc, t'es avantagé. Le CELI te permet de moduler ta retraite quand t'en as besoin. Tu sais, ça te permet de cotiser pendant toute ta vie dans ton REER, le retirer tranquillement pas vite et venir compenser les années que tu veux faire un petit voyage ou payer une petite toiture ou un petit bébé doc de plus dans par semaine. Ou un oiseau bleu ou un vignier d'Arfand des Neiges.
On connaît ton raffinement.
Mon raffinement est là. Puis tu sais, mettons que tu te pètes la face, tu dis, tiens, j'ajouterais du Velvita. Tu prends ton CELI puis là... Non, mais tu peux te payer avec ça. Non, mais c'est fou parce que les gens réalisent pas à quel point, quand tu vends ta maison...
Un craft dinner aussi, ben tu sais.
Mets ça dans ton CELI, puis c'est vraiment une arme incroyable. Et je me rends compte que les jeunes, comme moi, plus ou moins jeunes, sous-estiment cette valeur-là de commencer à cotiser au CELI pour se bâtir un capital qui sera libre d'impôts quand on a besoin de dépenser.
Ben là, par contre, il va falloir que tu nous reviennes à un moment donné pour nous dire on met notre argent dans quoi dans le CELI, parce que sincèrement, je veux dire, le CELI, c'est un peu comme le REER. S'il est placé dans des choses plutôt traditionnelles, ça grimpe pas tant que ça. Hein?
Oui, mais là, c'est une question de risque rendement et de capacité de prendre du risque. Il y a des gens qui me disent, moi, puis il arrive quand je prends du risque, je me mange le front avec les dents d'en bas. C'est bien de valeur, tu ne fais pas d'argent. Et ça, je peux te dire que c'est une réplique. C'est une réplique de Urgence. C'est une réplique du téléroman Urgence des années 90, où est-ce que le client prenait du Vascodan, puis là, l'acteur disait, « Là, venez régler ça, parce que mon client se mange le front avec les dents en bas, donc je la récupère. »
Tu fais bien, je me souvenais pas de ça, je la trouve très bonne. Ça décrit bien, là. Donc, faut être prêt à prendre certains risques.
Oui, exactement.
Sinon, le CELI, il va rester, si on met 10 000 dedans, il va rester
mais
à 10 000.
Si vous vendez votre maison, remplissez votre CELI, vendez votre chalet, remplissez votre CELI, c'est payant.
Oui. Bon, ben écoute, on va écouter tes sages conseils, puis on va avoir très hâte de te retrouver demain.
Et merci. On va se payer du bris avec ça, Marie-Claude, peut-être.
Écoute, et peut-être un champagne.
Ouais, champagne, un crément.
Salut. En ai-je vraiment besoin? Merci beaucoup.